Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et les grands titres, tout d'abord pour ouvrir donc ce journal, le gouvernement fédéral qui envisage des paiements d'urgence aux travailleurs touchés par le confinement prolongé dans le Victoria. La France qui autorise la vaccination contre le Covid-19 dès l'âge de 12 ans et les partis d'opposition israéliens qui forment un nouveau gouvernement de coalition. Victoria qui a enregistré 3 nouveaux cas de coronavirus, dont un qui était déjà connu dans la journée d'hier, donc 2 cas juste annoncés, portant à 63 le nombre d'infections de l'épidémie actuelle dans l'État. L'État a connu une autre journée record de tests avec plus de 57 000 tests dans les 24 dernières heures. De leur côté, les zones régionales mettront fin à leur confinement d'ici à ce soir. Un assouplissement des restrictions dans la région qui signifierait la suppression donc des cinq raisons de quitter la maison, la réouverture des commerces de détail et des lieux d'accueil fonctionnant uniquement en tant que service assis. Le soi-disant cercle d'acier qui avait été utilisé l'année dernière pour faire respecter la division régionale sera remplacé par des patrouilles de police itinérantes et les entreprises régionales seront tenues de vérifier l'identité de leurs clients. Les Victoriens touchés par le confinement pourraient se voir offrir des paiements similaires à ceux qui avaient été mis en place par le Commonwealth distribués après les incendies et les inondations. Le trésorier Josh Frydenberg envisage un programme de paiement du type catastrophe et catastrophe d'urgence à la suite donc d'une extension de la mise en quarantaine de Melbourne. Il a dit ceci à Channel 7 qu'une aide ciblée était envisagée. On l'écoute.
We'll have more to say in due course, but we do recognise that with the extension of the lockdown in Victoria, there is a need and there is obviously a lot of pain that families and businesses have been going through.
Voilà donc Josh Frydenberg, le ministre du Trésor. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu'il n'était toujours pas clair dans les mesures dans quelle mesure la population serait protégée contre une vague de Covid-19 si le confinement devait prendre fin plus tôt que prévu. Johnson a précédemment averti que la propagation rapide du variant dit indien pourrait faire dérailler les plans visant à mettre fin aux restrictions du Covid-19 en Angleterre à partir du 21 juin. Il dit qu'il sera prudent dans la levée des restrictions sur le coronavirus. On l'écoute.
We always said that the unlocking steps that we've taken would lead to increases in infection. What we need to work out is to what extent the vaccination program has protected enough of us, particularly the elderly and vulnerable, against a new surge. And there, I'm afraid, the data is just still ambiguous.
Donc le Premier ministre britannique Boris Johnson, 100 millions de plus, c'est le chiffre estimé de travailleurs plongés dans la pauvreté à cause de la crise du Covid-19. C'est un chiffre annoncé par l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Les explications à Tine Lesage.
C'est une crise qui risque de laisser des séquelles à long terme sur les travailleurs et les entreprises, alerte l'OIT. Les chiffres sont alarmants. Par rapport à 2019, 108 millions de travailleurs sont considérés comme pauvres ou très pauvres. L'organisation estime également que la crise sanitaire provoquera un déficit de 75 millions d'emplois en 2021. Perte d'heures de travail ou suppression complète d'emplois sont les causes de la hausse du chômage et de la pauvreté des travailleurs. Les régions du monde les plus touchés par ce phénomène sont l'Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que l'Europe et l'Asie centrale. La pandémie a ainsi effacé 5 ans de progrès, estime l'OIT. La crise frappe aussi de plein fouet le secteur informel, plus particulièrement les femmes, s'inquiète l'organisation. Et la crise est loin d'être finie. L'emploi ne devrait retrouver son niveau d'avant la pandémie qu'en 2023, selon l'organe de l'ONU.
Donc, Atine Lassage pour RFI. La France qui décide d'autoriser la vaccination contre le Covid-19 dès l'âge de 12 ans et d'ici une quinzaine de jours. Et à l'Élysée, on grille la priorité à la haute autorité sanitaire dont l'avis devrait être attendu aujourd'hui. Marie Cassadébette.
Il y a peu de suspense, la HAS devrait rendre un avis positif à la vaccination des adolescents. L'Agence européenne des médicaments ayant déjà donné son feu vert le 28 mai dernier pour l'utilisation du vaccin Pfizer pour les 12-18 ans. Mais l'exécutif français n'a pas attendu pour l'annoncer. Le pays s'engagera le 15 juin dans une nouvelle phase de sa campagne de vaccination. Olivier Véran, le ministre de la Santé.
Elle va participer de ce mouvement d'immunité collective qui nous permettra de... Nous l'espérons, de limiter des fermetures de classes, de collèges ou de lycées à la rentrée, de protéger aussi des ados qui parfois peuvent développer des formes symptomatiques. C'est assez courant dans la lutte contre les épidémies que de vacciner aussi les jeunes adolescents, et nous avons tous les feux verts des autorités sanitaires françaises, européennes, mondiales.
Comme pour rassurer les plus réticents, le ministre a rappelé que l'Allemagne allait commencer à vacciner ses ados la semaine prochaine, que le Canada, les États-Unis ou encore Israël le faisaient déjà depuis plusieurs semaines. Et pour trancher la question des autorisations parentales, Olivier Véran a précisé qu'il avait fait appel au Comité national consultatif d'éthique. Seront-elles nécessaires pour les enfants de 12 ans comme ceux de 17 ? La réponse devrait être apportée lundi.
C'était Marie Cassat-Debet pour RFI. Alors voilà pour la vaccination. Et d'ailleurs en France, le président Emmanuel Macron a entamé un tour de France dans les départements. Il débute avec le département du Lot pour prendre le pouls des Français. C'est ce que dit l'Élysée pour l'après-Covid et bien entendu pour l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon. Anthony Lattier.
Vous allez bien ? Ça n'a pas été trop dur la période ?
Comme un docteur qui vient faire sa tournée des malades, Emmanuel Macron vient prendre des nouvelles des Françaises et des Français qui ont vécu plus d'un an de crise sanitaire. D'un pas tranquille et dans une ambiance estivale, il déambule à la rencontre des habitants et des commerçants. Il pose des questions, président à l'écoute plutôt que donneur de leçons.
Je pense qu'il y a une chose utile, c'est d'essayer de voir ce qu'il y a de bien qu'on a adapté pendant la crise et qu'il faut garder.
Emmanuel Macron tâte le terrain aussi pour faire des choix dans les réformes à venir. Et il l'assure, rien n'est encore décidé.
Il ne faut pas penser qu'on procède à des réformes dans un pays comme on administre une potion. Donc je n'ai pas d'idée cachée, je n'ai pas un plan de réforme dans la poche que je vais déployer en disant « est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça ?» Et donc nous avons, là maintenant, à bâtir le cap des 10 prochaines années. Et je pense qu'il ne faut pas le faire en étant simplement enfermé avec des experts.
Rien à voir avec le rouleau compresseur des réformes du début du quinquennat. Emmanuel Macron veut installer l'image d'un président proche des préoccupations des Français pour mieux coller à leurs attentes dans la perspective de la présidentielle.
Voilà donc pour la France, direction l'Israël maintenant. Et M. Lapid, le dirigeant centriste, a annoncé la formation d'un gouvernement pour évincer le conservateur Benjamin Netanyahou en place depuis 12 ans dans le pays. Mais cette nouvelle coalition regroupe 8 partis et donc les divergences ne manquent pas. Guilhem Deltiel.
De Yamina, le parti nationaliste religieux situé très à droite sur l'échiquier politique, à Meretz, l'une des formations les plus à gauche, en passant par le parti islamiste, cette coalition fait le grand écart. Après 3 élections n'ayant pas permis de créer une coalition fonctionnelle, cette alliance se présente comme un gouvernement d'union dont la nécessité a été dictée par la situation, un blocage autour de la personne de Benjamin Netanyahou. La formation de ce gouvernement permet de contraindre le premier ministre sortant au départ, mais sa diversité de courants le fragilise. Sur de nombreux dossiers, les futurs ministres devraient se trouver en désaccord. Yamina prône ainsi une politique migratoire ferme, l'expulsion des réfugiés soudanais vers leur pays après la normalisation des relations entre Israël et le Soudan. La gauche y est opposée. La construction de routes, d'infrastructures en Cisjordanie visant à améliorer les conditions de vie des colons sera aussi défendue par la droite du gouvernement mais combattue par la gauche. Les sujets de discorde ne manquent pas et la base parlementaire de ce gouvernement est fragile. Il ne compte actuellement le soutien que de 61 députés sur 120, une fine majorité. Aucun analyste ne s'attend à ce qu'il aille au terme de ses 4 ans de mandat.
C'était Guillaume Deltiel pour RFI. Un porte-container incendié qui a déjà causé la pire catastrophe environnementale maritime du Sri Lanka a coulé avec près de 350 tonnes de pétrole dans ses réservoirs. Le MV Express Pearl a brûlé pendant 13 jours juste à l'extérieur du port de Colombo avant que l'incendie ne soit éteint. Une tentative de tirer l'épave dans les eaux plus profondes a échoué et la poupe donc a coulé. Une énorme quantité de plastique du navire a déjà inonder les plages et les autorités craignent désormais une catastrophe encore plus grave si le carburant du navire s'échappait dans l'océan Indien. La biologiste marine et fondatrice d'Ocean's Well, le docteur Asha DeVos, s'est rendue sur la plage la plus touchée.
It used to be this beautiful tropical beach with coconut trees along the side, very idyllic. And today when I went there, I was very heartbroken to see piles of plastic pellets everywhere.
Voilà donc pour cette nouvelle au Sri Lanka. Retour en Australie, une enquête a été lancée sur une faille de sécurité majeure après que des détails privés d'un enfant victime de maltraitance aient été téléchargés sur un compte MyGov de quelqu'un d'autre. L'adresse, le numéro de téléphone, les coordonnées bancaires et le numéro Centrelink de la personne ont été partagés avec un parfait inconnu. Leur demande au programme national de réparation décrivant les abus sexuels qu'ils ont subis a également été partagée avec une autre survivante. Lors d'une audience au Sénat, la ministre des Services sociaux, Anne Roston, s'est excusée de l'erreur bureaucratique et de l'abus de confiance qui s'est passé.
I regret most sincerely that this error has occurred and that any trauma or distress that has been caused to the person whose information has been incorrectly uploaded. Deeply regret what's happened.
La NASA revient sur Vénus après des décennies d'exploration. L'agence spatiale a annoncé deux nouvelles missions robotiques sur la planète la plus chaude du système solaire. On analysera l'atmosphère de la planète pour tenter de déterminer si elle a déjà eu un océan. L'autre cartographiera la surface de la planète. Le nouvel administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que les missions seraient lancées entre 2028 et 2030. On l'écoute.
These two sister missions both aim to understand how Venus became an inferno-like world capable of melting lead at the surface. They will offer the entire science community the chance to investigate a planet we haven't been to in more than 30 years.
13h12 minutes et avant de passer au sport sur les terrains, la carte de la discorde entre le Japon et la Corée du Sud. Le site officiel des Jeux Olympiques de Tokyo a publié un plan de l'archipel nippon. Seul hic, la représentation intègre deux îlots revendiqués par les deux pays. Retour sur une division de plus de 70 ans avec Nicolas Roca.
Dokdo pour la Corée, Takeshima pour le Japon et Rocher-Liancourt pour le reste du monde. Ce groupement d'îles volcaniques, peuplé de seulement deux résidents civils et d'une trentaine d'officiels, divise les deux pays depuis les années 1950 et l'indépendance de la Corée. C'est donc la carte de la flamme olympique qui a cette fois ravivé le désaccord entre voisins, dont les relations sont loin d'être au beau fixe. Au-delà du symbole historique pour une Corée longtemps colonie japonaise, ces petits bouts de rochers quasiment inhabitables offrent au pays qui les possède des ressources en poissons et la possibilité d'étendre sa zone économique exclusive. Elle contiendrait aussi des gisements de gaz naturel. La Corée du Sud avait accepté de retirer les îles du drapeau de la Corée unifiée lors des JO d'hiver organisés à Pyeongchang en 2018 et elle a donc demandé la réciproque à plusieurs reprises au Japon, sans succès. Les tensions ne semblent pas prêtes de s'apaiser. Hier, un diplomate japonais a été convoqué au ministère des Affaires étrangères à Séoul et trois étudiants sud-coréens ont brûlé un drapeau impérial japonais devant l'ambassade nippone.
Et le sport maintenant sur les terrains en A-League. Brisbane s'est assuré une place en finale avec une victoire 2-1 sur Perth, les Perth Glory. Donc les Roars de Brisbane occupent maintenant la troisième place sur le classement. L'entraîneur Warren Moon a déclaré que la victoire soulageait l'équipe de la pression. On l'écoute.
Tonight was a huge relief for the group staff. It's a weight off our shoulders now that looks like we've secured the final spot. So anything's possible now on Saturday.
Et voilà donc pour le football, le retour sur le sport plus en avant avec Jean-Noël dans quelques instants, tout de suite après ce journal. Rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Le gouvernement fédéral envisage un paiement d'urgence aux travailleurs touchés par le confinement prolongé dans le Victoria. La France qui autorise la vaccination contre le Covid-19 des 12 ans et plus. Et les partis d'opposition israéliens qui forment un gouvernement de coalition.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.